À tous, Dieu vous bénisse. Un beau dimanche de printemps, alors que c'est bientôt l'été, il était temps. On veut dire un petit bonjour à Nicolas, parce que je suis sûr qu'il nous écoute sur Internet. Voilà. Et voilà, donc il est en Italie, il parle italien, c'est formidable, que Dieu le bénisse et le dirige dans toutes ses affaires. Ce matin, je vous invite à lire le Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Amen. Je vous assois. Alors, c'est le message qui suit celui de vendredi soir. Je vous parlais de Jésus qui avait un Père, le Saint-Esprit. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Difficile pour les trinitaires de l'accepter, ça. Mais voilà, c'est comme ça. Et il avait une mère, Marie. Nous avons tous un Père et une mère, sinon on ne serait pas là. Hein? Lydie vient de fêter ses 20 ans. C'est grâce à Philippe et Marie-Claire qu'elle est là. Hein? Il y a 20 ans, Marie-Claire est... Elle a mis au monde ce beau petit bébé, et maintenant, voilà, il fallait que Marie-Claire et Philippe fassent quelque chose pour qu'on puisse arriver à une naissance. Et là, ici-bas, la naissance, ce n'est pas la fin, c'est le commencement, c'est comme le mariage. Le mariage, c'est le commencement, la cérémonie, mais après, il y a toute la vie. Et quand on est né de nouveau, c'est quelque chose aussi qui commence, mais ce n'est pas la fin de la chose. Jésus parlait un soir avec un religieux juif, un religieux qui venait, qui croyait en lui, mais qui avait un peu la trouille de ses co-religionnaires et qui venait le soir parce qu'il ne voulait pas être vu en compagnie de Jésus, ce créateur de secte nouvelle. Et il dit, je crois en toi, je sais que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc je crois. Et Jésus lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit. Pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour devenir sujet de ce royaume, pour que Dieu soit ton roi, celui qui t'accorde sa protection, celui qui dirige les choses de ta vie, qui est ton roi, pour être le sujet de ce royaume, il faut que tu naisses une seconde fois. C'est-à-dire, il faut que tu aies un nouveau père, il faut que tu aies une nouvelle mère. Ce qui fait que, par exemple, dans les sectes, on dit « renier vos parents ». C'est une absurdité. Parce qu'il y a les deux plans, il y a le plan physique et il y a le plan spirituel. Et c'est sur le plan spirituel que nous avons dans la nouvelle naissance un nouveau père et une nouvelle mère. Ce qui n'annule pas notre père et notre mère de la terre. Jésus dit d'eau et d'esprit. L'eau et l'esprit sont vos nouveaux parents. Mais qu'est-ce que c'est l'eau et l'esprit? L'eau et l'esprit, c'est l'eau et le feu si vous voulez. Rappelez-vous le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sous la forme de flammes de feu. Il est impossible, mes frères et sœurs, de se soumettre aux lois du royaume, de vivre dans ce royaume, de prospérer dans ce royaume, hors de la nouvelle naissance. Ce n'est pas possible. On ne peut avoir qu'une religion. On peut avoir une religion, mais la religion, ce n'est pas ce royaume de Dieu. Ce n'est même pas l'antichambre. C'est rien. Si vous regardez dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est une religion? C'est un ensemble de dogmes et de croyances qui réunissent les gens. Voilà. Mais c'est pas ça que Jésus est venu apporter. Hein? Alors écoutez bien. De même que la naissance d'un enfant est le résultat du travail que le Père fait sur la mère, de même, l'entrée dans le royaume de Dieu est le résultat du travail du feu sur l'eau. C'est un langage symbolique, je vous explique. Le feu représente l'esprit. Et l'eau représente la matière primordiale. Vendredi, je vous disais que l'esprit, c'est le principe masculin, c'est le Père, c'est Dieu le Père, et que l'Église, c'est notre mère. Elle est symbolisée par l'eau. L'eau, dans la Bible, est la parole de Dieu. Vous trouvez ça dans Éphésiens 5, 26, que Jésus-Christ, après nous avoir fait naître de nouveau, il nous sanctifie, c'est-à-dire qu'il nous met à part, il nous purifie, nous par le lavage de la parole, de l'eau de la parole. Lorsque nous étudions cette parole, lorsque je vous enseigne ces paroles, lorsque les pasteurs prêchent la parole de Dieu, ils vous lavent. L'eau de la parole, la prédication de la parole sert à laver les chrétiens, à vous purifier. L'eau de la parole. Éphésiens 5, 26. Toujours dans la symbolique, l'eau. Connaître Dieu, c'est impossible en dehors de sa parole. On peut s'imaginer qu'on connaît Dieu, on peut avoir des impressions, des expériences, mais si on ne connaît pas ce que Dieu a dit, comment peut-on connaître Dieu? Il se révèle par la parole écrite. Dieu a parlé autrefois par les prophètes, ensuite il est venu en chair, c'était celui qu'on appelle le Fils de Dieu, c'était Dieu dans la chair, il est venu, il a parlé. Les apôtres ont mis par écrit ce qu'il a dit, et maintenant, eh bien, pour connaître ce qu'il a dit, il faut lire le livre. Connaître Dieu, on ne peut pas le connaître en dehors de la parole écrite. Et l'homme limité croit qu'il croit, mais en réalité, il se trompe. Dieu est ce qu'il dit qu'il est dans le livre. Point. Et il a confié son livre, ce qu'il a dit, à l'Église. Alors, suivez-moi. L'eau et le feu. La mère et le père. L'esprit et la parole. D'accord ? Maintenant, toutes les religions du livre prétendent posséder la vérité. Alors, écoutez bien, je ne vais pas chercher à vous faire croire que la vérité, elle est chez nous, dans notre chapelle. Je ne vais pas vous faire croire ça. Je vais juste vous démontrer ce qu'est la vérité. Mais écoutez-moi bien. Il y en a qui vont dire que je fais de l'intellectualisme. Tant pis, il faut quand même réfléchir. La Bible nous dit « Dieu est amour ». Et la Bible nous dit aussi par ailleurs qu'il est sage celui qui gagne des âmes. Hein, on vient de le dire, celui qui gagne des âmes, il est sage. Le fruit, son fruit, c'est l'arbre de vie, un arbre de vie. Vous vous rappelez ce que c'est l'arbre de vie ? Dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie, l'accès à l'arbre de vie était interdit depuis que l'homme et la femme avaient touché à la connaissance du bien et du mal. Maintenant, vous portez, le fruit que vous portez, c'est l'arbre de vie. C'est-à-dire que vous donnez la possibilité aux gens de l'extérieur de devenir vivants s'ils goûtent ce que vous avez à donner. Qu'est-ce que vous avez à donner ? Le témoignage de la parole. Pas votre propre expérience, tout le monde s'en fout. Mais le témoignage de la parole de Dieu. Vous l'enrobez avec votre histoire, avec votre témoignage. Mais c'est la parole de Dieu qui est importante. Que vous soyez sorti de la drogue, tout le monde s'en fout. Tout le monde va dire « Ah, oh, ça peut faire dans ma vie que tu sois sorti de la drogue. » Ce qui est important, c'est la parole de Dieu que vous mettez dans votre témoignage qui est important. C'est elle qui a le pouvoir de la vie, qui donne la vie. L'ordre des choses, c'est que Jésus, Dieu, est le Sauveur, mais que c'est l'Église qui gagne les âmes en prêchant l'Évangile. Alors vous allez me dire, qui est sauveur ? Dieu, au travers de son Église, au travers de sa parole. Dieu est amour, l'Église est sagesse de la parole. La sagesse de Dieu révélée est dans l'Église. Manifestée, l'Église manifeste la parole. L'eau de la parole, elle est dans l'Église. Celui qui agit dans l'amour, et dans la sagesse, celui-là est dans la vérité. Celui qui agit dans l'Église comme membre du corps de Christ, avec la sagesse révélée dans la parole de Dieu, et qui agit en Dieu, c'est-à-dire dans son esprit, dans son état d'esprit, dans l'esprit, spirituellement, il est dans la vérité. Aucune dénomination religieuse, aucun groupe religieux n'est dans la vérité. Aucun. Visiblement. Dans la vérité, il n'y a que des gens individuels. Il n'y a pas d'organisation humaine. Il y a des gens nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit, nés par l'action du Père et par l'action de l'Église, et qui marchent unis au Père et à l'Église. On ne peut pas être unis seulement au Père. On ne peut pas être unis seulement à l'Église. Vous avez des gens qui sont unis que à l'Église. Ils vont à l'Église, au mariage, au baptême, parce qu'ils baptisent les enfants, et puis à l'enterrement. Ils sont unis à l'Église. Mais Dieu ne connaissent pas. Il y a des gens qui s'imaginent connaître Dieu, mais ils disent « Moi, je ne vais pas à l'Église, c'est une bande d'hypocrites. » Voilà. Ben, c'est vrai qu'il y en a, mais il y en a partout. Hein? Si, on ne peut pas dire « Ah, moi, je ne vais plus chez le boucher, parce qu'il y a plein d'hypocrites chez les bouchers, il y a plein d'hypocrites chez les boulangers, il y a plein d'hypocrites chez Matfer, il y a plein d'hypocrites partout. » C'est pas pour ça qu'on ne va pas travailler, hein. Bon, voilà. Donc, on va aussi aller, on va à l'église, on y trouve des hypocrites, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que dans l'église, il y a un mystère porteur de vie. Celui qui aime Dieu et qui dit qu'il n'aime pas sa mère spirituelle, c'est un problème, puisque c'est Dieu qui crée l'église, c'est Dieu qui bâtit son église. Alors, je sais qu'on a donné de la vérité toutes sortes de définitions, mais elles ont réussi qu'une chose, c'est à embrouiller la question. Il est impossible de dire ce que c'est que la vérité, parce qu'elle n'existe pas en tant que telle, la vérité. Seule existe l'amour et la sagesse. L'amour, Dieu, et la sagesse, l'Église, porteuse de cette parole. C'est pourquoi tant de gens qui prétendent posséder la vérité sont en réalité dans l'erreur. On ne possède pas la vérité. Et comment est-ce qu'on peut voir qu'ils sont dans l'erreur? À ce qu'ils manifestent, parce qu'ils ne manifestent ni amour ni sagesse. Ou alors, ils manifestent de l'amour, mais pas de sagesse. Une espèce d'amour dégoulinant, n'est-ce pas, de bons sentiments, mais il n'y a pas de sagesse. C'est un espèce d'amour qui les met en danger, qui met en danger tout le reste. C'est un amour déséquilibré. Ce qui révèle si une personne est dans la vérité, c'est son amour et sa sagesse, les deux. Ce n'est pas ses théories, ce n'est pas ses dogmes, ce n'est pas ses doctrines, ce n'est pas ses élucubrations, ce n'est pas ça. C'est le comportement qui révèle si une personne est dans la vérité, son comportement. Celui qui agit avec amour et sagesse, il est dans la vérité. Mais je vous rappelle, pas la sagesse du monde, la sagesse de Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir la sagesse du monde. C'est une bonne chose, la sagesse du monde, c'est bien. Elle permet au monde de vivre plus ou moins bien. Mais c'est la sagesse de Dieu dont je parle ici. Même s'il dit rien du tout, celui qui aime et qui est sage, selon la parole de Dieu, ça se voit, même s'il dit rien. Quant à ceux qui disent que la vérité, elle est difficile à connaître, je dis non, c'est pas vrai. Si vous voulez sincèrement la vérité, elle se révèle à vous. Et vous vous efforcez de progresser dans la communion avec Dieu, dans la communion avec l'Église, et vous vous efforcez, et vous allez voir, la vérité, elle se fait toute seule. La vérité ne se trouve jamais comme un élément isolé, jamais. La vérité ne peut se concevoir indépendamment de l'amour, c'est-à-dire indépendamment de l'Esprit de Dieu, impossible. Et la vérité ne se trouve pas indépendamment de la sagesse, c'est-à-dire indépendamment de la parole de Dieu, indépendamment de ce que Dieu dit dans la Bible. Refuser de connaître la Bible, refuser de savoir, de chercher, de comprendre. Ah oui, mais moi je pense que... On s'en fout de ce que tu penses. Il faut commencer à être humble. C'est ce que la parole de Dieu dit qui est la vérité. Et c'est ça qui doit faire ma vie, qui doit faire que je deviens vrai. Aimer Dieu et ne pas aimer l'Église, c'est être dans l'erreur. Parce que l'Église est construite par Dieu. On dit, je bâtis mon Église. C'est votre amour, c'est votre sagesse qui vous mettent dans la vérité, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas d'eau et d'esprit, si tu n'es pas de la parole et d'esprit, si tu n'es pas d'eau et de feu. Vous comprenez? Impossible. Il faut les deux. Alors, les vérités contradictoires qui circulent dans ce monde, elles reflètent quoi? La désinformation du cœur, voilà ce qu'elles reflètent. La désinformation de l'intellect humain. On a bâti des doctrines, des machins pour essayer de prouver que nous, on a la vérité, que nous, on est dans la vérité. Beaucoup se font une idée et ils aiment leur idée au sujet de Dieu, mais elle ne correspond pas à ce que Dieu dit de lui-même. Et quand ils se trouveront devant Dieu, ils vont être très étonnés. Tous ces gens qui tuent au nom de Dieu, vous ne croyez pas qu'ils vont être étonnés? Mais même sans aller jusque-là, ils sont très étonnés quand ils vont se trouver devant Dieu et puis Dieu va leur dire, mais c'est pas ça, tu t'es fait une idée de moi qui est fausse. Alors, cela crée des confusions, d'avoir une idée au sujet de Dieu, mais qui n'est pas basée sur les Écritures, sur ce que Dieu dit qu'il est. Ça provoque des expériences étranges, je ne vous fais pas de dessin, et puis, même, ça va jusqu'au meurtre. Ce n'est pas seulement au Moyen-Âge, c'est encore maintenant. Alors, vous voyez, quand quelqu'un dit, « Pour moi, la vérité, c'est que... » C'est sa vérité. Mais cette vérité, elle parle de son propre cœur, elle parle de son intellect à lui, mais ce n'est pas la vérité. C'est insuffisant. C'est déformé, c'est même des fois contraire à ce qui est élevé par Dieu. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55, 8. Pour les meilleures pensées du monde, c'est nul, zéro, zéro devant Dieu. Ça fait drôle de penser ça. Et puis dans Proverbe 23, 7, il est dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Si votre âme est nourrie des pensées de Dieu, nourrie de la parole de Dieu, alors, votre âme est divine. Elle est en chemin pour arriver à cette perfection. Mais je vous laisse imaginer ce que c'est qu'une âme qui ne sait pas comment Dieu pense et qui ne connaît pas Dieu selon ce que Dieu dit de lui-même. Il s'illusionne. Frères et sœurs, si la vérité elle était indépendante de l'activité du cœur et de l'intellect, c'est-à-dire indépendante de l'amour et de la sagesse, tout le monde aurait découvert la même vérité. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tout le monde découvre des vérités différentes. Sauf ceux qui possèdent le véritable amour, la véritable sagesse, c'est-à-dire le véritable Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ et sa parole qui est distribuée, qui est dispensée par les cinq ministères dans l'Église. Ceux-là ont découvert la même vérité, c'est pourquoi ils parlent le même langage, c'est pourquoi ils peuvent être un seul cœur, une seule âme, selon Actes 4, 32. Sinon, je ne parle pas des opinions. On a le droit d'avoir des opinions. Mais la parole de Dieu est la vérité écrite que nous devons rendre manifeste. Mes frères et sœurs, tout dépend donc du développement harmonieux du cœur et de l'intellect. Les gens qui sont religieux que de cœur, me méfient. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il lui faut un garde-fou. Le garde-fou, c'est la parole absolue qui est écrite là. Ça nous garde contre toutes sortes de folies. Notre cœur est capable de faire des folies. Je vous posais des questions au sujet de certaines personnes qui avaient cherché Dieu sincèrement, qui l'avaient trouvé, qui avaient marché avec lui, qui avaient commencé par l'esprit, mais qui avaient fini dans la chair. Et j'ai lu ce que Dieu en dit dans Galates 3, 3, dans la Bible. Paul dit, « Êtes-vous stupide à ce point, après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant achever par la chair ?» Alors, ils ont Dieu pour père, ils ont commencé par l'esprit, ils ont Dieu pour père, mais leur mère leur a appris des choses stupides, vous voyez? Ou, ils ont commencé par Dieu, si vous préférez, mais ils n'ont pas eu l'Église pour mère, ils ont renié leur mère, ils n'ont pas voulu de leur mère, ils n'ont pas voulu de l'Église, ils n'ont pas voulu de la sagesse, de la parole de Dieu. Ou alors, ils se sont contentés que des miettes de la parole de Dieu, ils ont acheté la Bible, puis elle est dans un coin, puis ils ont le calendrier, n'est-ce pas, viens et vois, puis ils lisent un verset chaque jour, et puis ils pensent que ça... Et quand vous vous mettez à table, vous mangez, ne faites pas semblant. Eh bien, il ne faut pas faire semblant non plus de nourrir son âme. Ou alors, ils ont eu la stupidité pour mère. La stupidité. De nos jours, plus que jamais, l'Église est devenue une vierge folle. C'est ce que Jésus dit. L'Église devient folle, une dingue. Soit ils sont légalistes, soit ils sont trop permissifs. Rarement le juste milieu de la parole de Dieu. Vous vous rappelez, Frère Branham disait, marchez sur le chemin, oui, mais au milieu du chemin. Parce que si vous marchez à droite, vous êtes un extrémiste de la loi. Si vous marchez à gauche, vous êtes un extrémiste permissif. Vous êtes permissif. Il faut marcher au milieu du chemin. Il y a le cœur et il y a l'intellect. Les deux doivent être, et c'est au milieu qu'on trouve cela, dans l'équilibre. Aujourd'hui, l'Église est devenue une mauvaise mère. Elle éduque mal ses enfants. Elle leur apprend mal les choses. Les gens, quand ils sortent de l'Église, ne savent pas quoi faire avec ce qu'ils ont entendu. Ça ne leur sert à rien du tout. Remarquez, ce n'est pas que la faute de l'Église, parce que vous avez des pasteurs formidables, des prophètes extraordinaires, des enseignants merveilleux, qui enseignent vraiment la vérité, mais à une bande de rebelles. Vous avez des fils et des filles rebelles dans l'Église, des fils et des filles qui font honte à leur mère, qui font honte à l'Église, qui sont des insoumis, qui font ce qu'ils veulent. Oui, mais moi, je... Oui. Bon, ben voilà. Quelle relation avez-vous avec l'Église, avec votre mère? La critiquez-vous? La méprisez-vous? C'est vrai qu'elle est maintenant... Elle a atteint un grand âge, votre mère. Elle a 2000 ans, l'Église. Elle a un grand âge. Et c'est vrai qu'elle devient un peu dingo, comme beaucoup de vieux. Hein? Est-ce que vous la méprisez?
Ou est-ce que vous l'aidez? Est-ce que vous la soutenez? Est-ce que vous l'encouragez? Est-ce que vous êtes amour pour elle? Est-ce que vous l'avez laissé tomber? Comme c'est dans le monde, c'est la mode, on laisse tomber ses parents. Mais c'est quand même surtout l'état général de l'Église qui est alarmant. Elle retombe en enfance. Elle devrait retourner à la vérité originale, c'est-à-dire revenir comme elle était il y a 2000 ans, selon la parole, mais plutôt que de faire ça, elle retombe en enfance, elle gagatise. Ils enseignent des choses qui manquent de profondeur, des trucs, ils enseignent des trucs puérils. Ils veulent sentir la présence de Dieu. Ils veulent vivre des expériences spirituelles. Mes frères et sœurs, si la vérité reste une question si obscure, c'est parce qu'on la présente toujours comme une abstraction. Or, la vérité, on est dedans. Dieu est omniprésent, il est partout. On est en Dieu. Que vous soyez pécheur ou non, vous êtes en Dieu. Vous êtes lié à Dieu. Il vous est impossible de vous séparer de Dieu. Dieu est partout. La vérité, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Il est partout, vous êtes dedans. Vous mangez la vérité. Vous respirez la vérité. Il nous faut cesser de penser qu'elle va venir de l'extérieur. Vous êtes dedans, vous êtes. Celui qui s'attend à rencontrer quelque chose d'extérieur, qu'on pourra dire « Ça, c'est la vérité », alors cette personne-là, elle est dans l'erreur. Elle se trompe par défaut au raisonnement. La vérité, on ne peut s'en approcher qu'en étudiant l'amour et la sagesse et en cherchant à manifester l'amour et la sagesse. Pas une religion, pas un dogme, pas une doctrine, pas un échafaudage humain, la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis la vérité. La vérité, puisque c'est lui, la vérité est donc omniprésente, omnisciente, omnipotente, la vérité est Dieu. Et rien n'existe en dehors de Dieu. Dites-moi un endroit où Dieu n'est pas. Il est partout. Mais pour s'approcher de Dieu, c'est-à-dire pour être de plus en plus conforme à lui, qu'est-ce que ça veut dire s'approcher de Dieu? Beaucoup de gens disent qu'il faut s'approcher. Mais ça veut dire quoi s'approcher de Dieu? C'est encore un vocabulaire symbolique. S'approcher de Dieu, ça veut dire devenir de plus en plus conforme à lui. S'approcher de la réalité, s'approcher de la vérité, être de plus en plus conforme à lui, pour être de plus en plus à son image, pour devenir de plus en plus à sa ressemblance. C'est ça, s'approcher de Dieu. Si je m'approche de Stéphane, je fais quelques pas, je suis près de lui, mais je ne lui ressemble pas. L'important, ce n'est pas de devenir près de Dieu, d'être assis à sa droite ou à sa gauche, ou d'être derrière, dessus ou dessous. Ce n'est pas ça qui est important, c'est d'arriver à m'identifier, vous voyez ? C'est dans le domaine spirituel, pas dans le domaine matériel de la distance. Je m'approche de Dieu d'un mètre, de deux mètres, de trois mètres. C'est s'approcher dans le sens d'être de plus en plus conforme à lui. Eh bien, pour être de plus en plus conforme à lui, il faut le connaître, lui. Et le connaître, lui, on ne peut pas le connaître en dehors de sa parole, en dehors de ce qu'il a dit. On ne peut pas le connaître. Si vous lisez, vous allez trouver son caractère, vous allez trouver comment il est, lui. Sa sagesse, ce qu'il a dit, montre ce qu'il est. Il est ce qu'il dit. Il dit ce qu'il est. Or, sa parole nous est transmise par les ministres de Dieu dans son Église, les cinq ministères dont parle Éphésiens. Alors, quelqu'un me dira, mais il y a tellement d'églises, laquelle est la bonne? Si quelqu'un pose cette question, il permet à l'ombre d'ouvrir ses ailes, c'est-à-dire de mettre les ténèbres. On ne cherche pas la vérité dans une église. On ne cherche pas la vérité dans un machin, dans un truc. L'Église... La vraie Église, elle n'est pas visible. Elle n'est pas une organisation humaine. Elle est le fruit de l'eau et du feu, de l'esprit et de la parole, de Dieu et de l'Église. L'Église est le fruit de l'Église. L'Église, c'est quelque chose, je vais l'expliquer, de mystique. Là où il y a l'esprit et la parole, il y a Dieu dans sa manifestation en faveur de la personne. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est là où Dieu dit « je me trouve ». Il se trouve partout, mais il se trouve en faveur de ceux qui sont assemblés en son nom. Là est le royaume de Dieu. Là, Jésus règne. C'est ça que ça veut dire. Jésus règne, Jésus est le maître, Jésus est le roi. Jésus a l'autorité quand deux ou trois sont assemblés, se mettent d'accord. C'est ça l'Église. Ce n'est pas un endroit. saint. Ah non, ça c'est un endroit saint. Ce que l'homme mal éclairé appelle l'église, c'est qu'un lieu de réunion. Un lieu de réunion, c'est rien. Une synagogue. Savez-vous ce que signifie le mot synagogue? Ça signifie assemblée. C'est une assemblée. Vous avez des assemblées de foot, vous avez des assemblées de loto, vous avez des assemblées de gym, de chant, de chorale, de toutes sortes. Et puis vous avez des assemblées, des gens qui s'assemblent pour lire la Bible, pour prier, pour chanter. C'est des clubs. Mais ce n'est pas l'église. Ce n'est pas ça l'église. L'église, elle est mystique. Qu'est-ce que ça veut dire mystique? C'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer de faire quand même. L'église est mystique, ça signifie l'église est la réalité spirituelle supérieure à ce qui est rationnellement humain. Un peu compliqué, je répète. L'église est la réalité spirituelle supérieure à ce qui est rationnellement humain. Elle est formée des membres du corps de Christ, et Christ se trouve être la tête. Elle est formée, l'Église est formée des membres du corps de Christ. Et les membres du corps de Christ sont ceux qui trouvent en la tête, en Jésus-Christ, leur absolu. Mais l'absolu, qui est dans la tête de Christ, qui est dans la tête de l'Église, l'absolu, c'est là, dans la Bible. Ils ont tous la même. Prenez les catholiques, prenez les protestants, prenez les baptistes, prenez les pentecôtistes, prenez les istes, ils ont tous la même. Mais ils en sortent tous des machins, des trucs et tout. La vérité, elle se voit quand une personne, dans son comportement, manifeste de l'amour et de la sagesse selon la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, chaque fois que vous introduisez dans vos pensées et dans vos sentiments les éléments de l'amour selon Dieu et de la sagesse selon la parole écrite de Dieu, alors vous faites un pas de plus vers la ressemblance de Dieu. Frères et sœurs, la vérité, il faut d'abord l'avoir trouvée, et puis ensuite, il faut continuer à la chercher. J'explique. Il faut s'attacher une fois pour toutes à ces deux principes irréfutables de l'amour et de la sagesse. S'y attacher. Et en même temps, il faut toujours continuer à chercher les formes les plus convenables pour mettre ces deux principes, amour et sagesse, en application. Parce que si vous savez ça seulement intellectuellement, ça ne sert à rien. Vous pouvez connaître 1 Corinthiens 13 par cœur et puis ne pas être sage. Hein. C'est pour ça que Jésus parle d'une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Un, vous devez naître miraculeusement du Père. Et deux, vous devez continuer à vivre ce miracle dans l'Église. En dehors, ce n'est pas possible. Vous devez le développer, développer cette naissance. En ce moment, le petit Raphaël et le petit Timothy, ils sont nés, mais ils sont en train de développer cette chose-là. Mûrir, devenir un adulte spirituel, devenir un être divin. Devenir, arriver à l'image du Père. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image, mais c'est vite devenu une caricature parce qu'ils n'ont pas cru la parole. Dieu avait dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ils n'ont pas cru ce que Dieu a dit, ils se sont détournés de Dieu parce qu'ils n'ont pas écouté ce que Dieu a dit. Sinon, on n'écoute pas ce que Dieu a dit, c'est-à-dire, on se détourne de Dieu, on n'est plus qu'une caricature de Dieu. Pour redevenir à l'image de Dieu, il faut écouter ce qu'il dit et se conformer à ce qu'il dit. C'est quand même pas compliqué. Pas à une religion, on s'en fout des religions. Mais ce qu'il dit, ça c'est important. J'espère que je vous donne l'amour de la parole de Dieu. D'aimer, chercher à trouver dans la parole de Dieu. Il est question de vous dans la parole de Dieu. Vous allez trouver votre identité. Et ça, c'est toute l'histoire d'une vie. C'est pourquoi nous avons la Bible, la parole écrite de Dieu. Ces paroles, elles sont la lumière sur notre sentier, c'est-à-dire elles nous éclairent comment vivre, comment agir. Et nous devons assimiler ces paroles, les manger, c'est une nourriture, les assimiler à notre vécu pour ne faire plus qu'un avec. Jésus a dit qu'il était la parole de Dieu faite chair. Et il a dit, ce que je ferai, vous le ferez, ce que je serai, vous le serez. Nous devons être la parole faite chair. Comment voulez-vous devenir la parole de Dieu faite chair si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne connaissez pas la Bible, si vous n'étudiez pas la Bible, si ce n'est pas votre livre de tous les jours, votre nourriture de tous les jours? Atteindre la stature parfaite de Christ. On va lire Éphésiens 4, 11, 16. «
Il a donné, donc Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est ceux qui croient. Ce n'est pas les morts qu'on a nommés saints et qu'on vénère avec des statues et des machins. Un saint, c'est quelqu'un qui est croyant. Un saint, ça veut dire quelqu'un qui est mis à part, qui s'est mis à part pour Dieu, qui s'est sanctifié, qui s'est mis à part. Le mot saint signifie à part. Donc, il a donné tous ses ministères, de la parole, prophète, apôtre, docteur, ça, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses et par les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? C'est Jésus qui bâtit son Église. Et c'est ce Jésus qui a donné pour la construction de son Église 5 ministères. On vient de lire la liste. Des ministères de la parole, de l'eau. Afin que, dans le but de former les saints pour une œuvre spéciale, l'œuvre du ministère, pour un travail, quel travail? La construction du corps de Christ, la construction de l'Église. La parole de Dieu sert à construire l'Église. Cela, ça ne se fait pas sans l'évangélisation, ça ne se fait pas sans votre témoignage personnel au quotidien. Parler, témoigner, raconter, enseigner, dire aux gens, leur expliquer. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est-à-dire, non pas à l'unité des sentiments, non pas à l'unité des organisations. L'œcuménisme n'a rien de Dieu. Il cherche politiquement à se mettre d'accord sur sur le papier pour pouvoir faire une association mondiale, mais en réalité, ils ne sont pas d'accord sur la parole de Dieu. Moi, je pense que, le mot baptême signifie immersion, mais à mon avis, je pense que Dieu peut se contenter de 3 gouttes d'eau. Non, il ne se contente pas de 3 gouttes d'eau. Si Dieu dit qu'il faut être immergé, il faut être immergé. C'est juste un exemple pour vous dire. Ils ne se mettent pas d'accord sur la parole de Dieu, ils se mettent d'accord politiquement pour être ensemble, pour pouvoir dire, voyez, on est ensemble, puis on fait des affaires en même temps. Et tous parvenus à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Selon les Écritures, pas selon la tradition, selon l'Écriture. La connaissance de Jésus, selon les Écritures, pas selon la tradition. Jésus, les gens ont des idées incroyables au sujet de Jésus. Nous, on croit des choses incroyables au sujet de Jésus. On croit qu'il est né de la Vierge Marie. Mais parce que c'est écrit, ça ne serait pas écrit, j'y croirais pas. Mais parce que c'est écrit, j'y crois. Pourquoi? Parce que tout le reste qui est écrit, quand je le mets en pratique, je vois que ça marche dans ma vie. Donc je me dis, tout ce qui est écrit là, c'est vrai même si ça dépasse mon imagination. Et si ça offense un peu mon intellect. J'y crois, c'est un choix. Je crois dans la parole de Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons atteint l'état d'homme fait. Nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes en train de grandir. Comment? Par l'action des 5 ministères qui apportent l'eau, qui apportent la parole de Dieu, qui fait croître l'ensemble. Qui doit croître? L'Église, le corps de Christ, doit atteindre cet état d'homme fait. Mais il ne l'atteindra que dans la mesure où chaque membre se développe. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui se développe? Alors, les mains, comment ça? Vous avez un bébé avec des mains d'homme? Non, tout se développe harmonieusement, sinon c'est un monstre. Et il faut que le corps de Christ, le véritable corps de Christ, se développe harmonieusement. Vous voyez, nous avons à vivre dans le réel de ce monde, le concret, une réalité mystique qui est incompréhensible aux non-initiés. Ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas saisir. Ça les dépasse. Alors, par une folie, à la fin ils disent, c'est inutile. Non, ce n'est pas inutile. Un initié, c'est une personne qui a reçu une initiation, une connaissance, celle de Dieu, celle de l'Église, spirituelle, intellectuelle, eau et feu. Un initié, c'est une personne instruite d'un secret. Un secret, ça n'est un secret que pour ceux qui ne veulent pas le connaître, parce que ce secret-là, il est vendu dans toutes les bonnes librairies. C'est le livre le plus vendu au monde, mais le moins lu.
au monde. Tout ce que Jésus a dit, c'est là, c'est dans la Bible. Il n'y a rien de secret. Nous n'avons pas de message secret. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons rien de mystérieux. Les choses qui demeurent secrètes, elles le demeurent pour ceux qui ne veulent pas étudier, qui ne veulent pas être des initiés. Un secret, c'est ce qui est peu connu, nous dit le dictionnaire. Ça ne veut pas dire ce qui doit absolument être caché. Non, c'est ce qui est peu connu, connu de peu de gens. C'est une chose qui n'est pas très apparente. La Bible contient tous les secrets de Dieu, tous les secrets de la nature, tous les secrets de l'homme, tout est là-dedans. C'est le livre, comme je vous dis, le plus vendu, le plus traduit, mais le moins lu. Pourquoi ? La Bible, elle contient des choses qui sont inconnues par les gens, par les non-initiés. C'est pas que l'Église cherche à cacher ces choses. Maintenant, si vous allez voir Anges et démons, le nouveau film là, qui vient de sortir suite au Code de Vinci, on vous fait croire qu'au Vatican, il y a des écrits cachés, n'est-ce pas ? Des mystères cachés et que l'Église est malhonnête en cachant des choses. Mais pas du tout, mais pas du tout. C'est juste pour donner aux gens la possibilité de critiquer. Et si seulement déjà tous les catholiques et tous les protestants se mettaient à lire la Bible et à mettre en pratique ce qui est écrit, on n'a pas besoin d'avoir ce qui est dans les caves du Vatican et dans les bibliothèques du Vatican. On s'en fout de ce qu'il y a là-dedans. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole pour que tous puissent la procurer, la lire et apprendre. Vous voyez, le monde est perverti avec cette histoire de secret. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas que les chrétiens cachent des choses. C'est que les gens préfèrent le mensonge à la vérité. Voilà la vérité. Voilà pourquoi ils ne lisent pas la parole écrite de Dieu, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Leur nature s'y oppose. C'est comme si vous me demandez d'aller, pas être grossier, mais d'aller manger du caca, quoi, je veux dire. C'est pour eux, ça ils trouvent ça répugnant. C'est pas dans leur nature, ça leur paraît, oh non, c'est pour eux, c'est repoussant, comme pour moi, ça serait repoussant d'aller manger du caca. Vous comprenez ? C'est dans leur nature, ils aiment ce qui est, ils aiment pas la vérité, ils aiment pas ce qui est pur, ils aiment pas ce qui est saint, ils aiment les... Bon, leur nature pécheresse s'y oppose. Mais vous, vous êtes nés de l'Esprit, vous êtes nés de Dieu, du Père, alors soyez-lui fidèle. Comment être fidèle à Dieu le Père ? Eh bien, en étant fidèle à votre mère, l'Église, même si elle est vieille, même si elle s'est rendue coupable de choses qui sont pas toujours très très belles, fidèle à sa mère. Amen. Être fidèle à votre mère, l'Église, parce que c'est en elle que Dieu a investi l'eau, la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie de faire comprendre à ceux qui ne vont plus à l'Église, qui écoutent là sur Internet et qui ont dit « Non, moi j'en ai marre de l'Église. » Je te prie, Seigneur, qu'ils comprennent au travers de ce message qu'il faut qu'ils reprennent le chemin de l'Église, qu'ils retournent écouter, qu'ils retournent se nourrir, qu'ils sont en danger, qu'ils ont besoin de cette eau vivante, parce qu'elle se trouve là, pas seulement dans leur Bible, mais que Dieu a donné des ministères pour apporter la parole. Que sans ces ministères, ils sont comme des brebis sans berger. Seigneur, fais-leur comprendre ça. Fais-leur comprendre de prendre le chemin, le retour à l'Église. Qu'ils disent, oh mon Dieu, je veux être humble, je veux arrêter d'argumenter toujours, mais je veux maintenant me repentir et dire, oui, bon, d'accord. Mon église, l'église, c'est une vieille maman, mais c'est pas grave, je vais y retourner, je vais pas l'abandonner. Parce que c'est bon pour elle, mais c'est aussi bon pour moi. Seigneur, fais-leur comprendre cela, au plus profond d'eux-mêmes, et qu'ils soutiennent leur maman, leur vieille maman, l'église, qui a besoin d'eux, comme ils ont besoin d'elle. Merci Jésus. Amen.